Je vais lire l'évangile selon Luc au chapitre 19, les versets 28 à 48. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du Mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils te laisseront pas ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repaire de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres.
Le Seigneur en a besoin. À partir de cette petite phrase, je vais vous proposer de réfléchir aujourd'hui à ce moment de la vie de Jésus qu'on appelle traditionnellement les rameaux ou même, bizarrement, l'entrée triomphale à Jérusalem. Alors cet événement, nous venons d'en entendre non pas le récit, mais un récit. Puisque tous les évangiles, en fait, le racontent. Et chacun le raconte d'une manière un peu semblable, mais aussi un peu différente. Mais tous les évangiles situent ce moment très peu de temps avant ce qu'on appelle la Passion. C'est-à-dire le moment où Jésus va être jugé, arrêté, jugé, condamné et crucifié. Et nous venons d'entendre que Luc, comme Marc et Matthieu, mais pas comme Jean qui fera autrement, Luc situe également cet épisode qu'on vient d'entendre, cet épisode de l'entrée du temps de Jésus à Jérusalem, juste avant, on l'a entendu aussi, Blaise nous l'a lu, celui qu'on a l'habitude d'appeler la purification du temple, ce moment tout aussi important où Jésus chasse les marchands du temple. Alors il est évidemment difficile de savoir ce qui correspond à la réalité chronologique. Pourquoi à certains moments plutôt que d'autres ? Et ne parlons pas, bien sûr, de la réalité historique. Même si, quand un épisode comme celui-ci se retrouve dans tous les évangiles, on peut penser qu'il a une réalité, et en tout cas, une origine historique, oui. En tout cas, il n'y a peut-être pas de réalité chronologique, mais il y a une logique dans ces trois récits. Jésus arrive à Jérusalem, il se fait remarquer, et nous avons entendu que ça commence tout de suite à agacer particulièrement les pharisiens. Mais ça, c'est rien, parce que peu de temps après, il va mettre, on l'a entendu aussi, la pagaille dans le temple, insulter les marchands, et puis il commence à prêcher et les gens l'écoutent. Bref, il devient de plus en plus dangereux et il va falloir l'éliminer. Comme nous l'entendrons vendredi, Vendredi Saint, si nous assistons à la liturgie d'après l'évangile de Jean à l'oratoire, comme nous l'entendrons donc vendredi Saint, de la bouche du grand prêtre, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, Jésus arrive à Jérusalem. Jésus connaît bien les Écritures. Il cite les psaumes constamment. Il est très influencé par ce personnage d'Ésaïe qu'on retrouve dans la deuxième partie d'Ésaïe, qu'on appelle le serviteur souffrant, celui qui souffre sans rien dire, dans l'humilité, qui se laisse battre. Et on voit qu'il est aussi là très marqué par le texte de Zacharie qu'on vient d'entendre. Peut-être que quand Jésus demande à ses disciples d'aller chercher l'annon, au-delà de l'apparence magique de la situation, ça a l'air magique, hein. Les disciples, ils leur demandent et ils trouvent tout comme il leur a indiqué, c'est vrai. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais ce n'est peut-être pas du tout un hasard. Peut-être que Jésus a bien l'intention d'accomplir à la lettre la prophétie de Zacharie, cette prophétie que tout le monde connaît bien à l'époque. Et de toute façon, c'est bien une manière pour lui de dire, oui, je suis, il est le Messie annoncé par Zacharie. Le roi, juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Seigneur en a besoin. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois cette année, et sans doute j'aurai l'occasion prochainement, de répéter combien certaines phrases, et en particulier certaines phrases de l'évangile de Luc, ont participé à construire notre foi. Mais celle-ci, elle se trouve dans les trois premiers évangiles. Et je pense qu'elle est particulièrement importante pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi ? D'abord, c'est une phrase remplie de mystère. On entend ça et on se dit, mais pourquoi le Seigneur a besoin de cet ânon ? On ne le sait pas encore. Et c'est aussi une phrase empreinte d'autorité. C'est presque la seule fois, à ma connaissance, où Jésus lui-même utilise, pour parler de lui-même, le mot « Seigneur », « Kurios ». Il y a une autre fois, je en parlerai, mais il peut le faire, pourquoi ? Parce qu'il parle, il dit « Vous direz, le Seigneur en a besoin ». Donc il dit à ses disciples « Vous parlerez de moi comme ça ». Et c'est vrai que ses disciples parlent déjà de lui comme ça. Mais il n'empêche, c'est Jésus qui le dit, et dans cette petite phrase, nous entendons Jésus, un Jésus qui, pour la première fois, d'une certaine manière, assume ce nom, Seigneur. Et c'est quand même dans la Bible hébraïque qui a été traduite en grec quelques siècles avant, peu de temps avant la vie de Jésus, c'est le moment aussi, dans cette Bible grecque, c'est le mot qui sert à désigner Dieu lui-même. Alors d'habitude, c'est les disciples qui l'appellent Seigneur. Une seule fois, donc, comme je disais, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, Jésus dira « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Mais c'est la seule fois, à part ça. Et dans la phrase qui nous intéresse, Le Seigneur en a besoin, je trouve que l'expression est presque plus forte. D'un seul coup, c'est Jésus lui-même qui assume cette autorité. La phrase, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à ses disciples, et du coup, elle le dit à nous aussi. Quelque chose quand même sur la nature divine de son autorité. Elle nous met devant une évidence que nous pouvons ne pas comprendre, en tout cas moi. Tant mieux si on a des moments où on a l'impression de la comprendre. Une évidence que nous ne comprenons pas, mais qui nous impressionne et qui peut même à certains moments nous donner la chair de poule, à certains moments, pour certaines personnes. Le Seigneur en a besoin. Alors aujourd'hui, c'est ce dimanche qu'on appelle traditionnellement dimanche des rameaux. Pourquoi ? À cause des rameaux, des feuillages, des branches, les feuilles de palmier. Et pour certains, nous le savons, c'est une fête qu'on célèbre en bénissant des branches de buis. Et vous rencontrerez peut-être tout à l'heure certaines personnes qui en rapportent chez eux, chez elles. Mais ce dimanche des rameaux, qui précède Pâques, on lui a donné ce nom parce que dans les trois autres évangiles, quand Jésus arrive à Jérusalem, il est accueilli comme un roi, oui. On parle aussi, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'entrée triomphale à Jérusalem. Toute la foule le salue en agitant des branches de palmiers. Les gens étendent les branches sur le sol devant lui pour que l'annon marche dessus. Et pourtant aujourd'hui, on n'a entendu aucun de ces mots. Palme, rameau, branche, tout simplement parce que Luc n'en parle pas. Peut-être que la scène le gêne un peu. Il ne sait pas, peut-être pas très bien comment la prendre. Il n'y a pas assisté, bien sûr. Et il a eu comme source plusieurs récits. Et on le comprend un peu parce qu'en réalité, dans le texte qu'on a entendu, on n'a pas du tout l'impression d'une scène triomphale. La foule ici, ce ne sont pas les habitants de Jérusalem, c'est surtout les disciples. Alors pas seulement les douze, hein, bien sûr, mais tous ceux qui suivent Jésus de loin, depuis longtemps. Il le dit, le texte, la foule des disciples. Il ne dit pas la foule des habitants. Ce n'est pas du tout comme dans d'autres évangiles. Alors effectivement, ils ont l'air quand même assez nombreux. Ils crient, on les entend. Mais ça veut dire aussi que peut-être d'autres personnes voient arriver Jésus sans le saluer. Et sans doute que les habitants de Jérusalem, sans parler des pharisiens, on va le voir, ne sont pas tous follement heureux de voir arriver ce vagabond, cette espèce de prophète ambulant, avec ses amis qui font tellement de bruit, comme pour se faire remarquer, ou pour le faire remarquer, lui. Et les pharisiens en particulier tordent franchement le nez. « Maître, reprends tes disciples. » Sous-entendu, t'as vu comment ils se conduisent ? Ils crient trop fort. Ils regardent Jésus avec méfiance. Et comme je l'ai dit, ils ont bien raison de se méfier. Parce que dans très peu de temps, le soir même ou le lendemain, Jésus va venir tout casser dans le temple. Presque tout. Mais en réalité, si la scène n'est pas si triomphale que ça, c'est surtout, peut-être, à cause de l'image de Jésus lui-même. Assis sur un ânon, qui peut à peine le porter. Normalement, un ânon, on ne le monte pas, voilà. Je vois ici des gens qui ont fait de l'équitation, les poulains, les ânons, ils sont trop jeunes, c'est trop fragile pour être monté. Donc, pourquoi l'ânon ? À cause de Zacharie, bien sûr. Et Zacharie, à cause d'une ancienne tradition. Par exemple, l'onction royale donnée à Salomon l'est alors qu'il est, il arrive monté sur une mule. Alors, un mulet, mais l'ânon, certaines fois, certains rois arrivaient dans la procession montés sur un ânon, ou un âne en réalité. Mais l'ânon est signe ici de grande fragilité. Assis sur un ânon qui peut à peine le porter, avec de vieux vêtements en guise de tapis de sel. Et ses disciples ne l'ont pas habillé en roi, ils l'ont déguisé en roi. Personne n'est dupe, tout le monde voit bien que c'est un déguisement. Alors où est le triomphe quand on a l'air d'un faux roi ? Où est la joie quand on arrive à Jérusalem pour être crucifié ? Le Seigneur en a besoin. Alors sur la porte du temple, j'ai punaisé deux photos. Ce sont des photos de très vieilles sculptures de Jésus assis sur l'âne. Vous pourrez jeter un coup d'œil en partant. Il y en a énormément dans tous les musées et des pays germaniques en particulier. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que la personne qui s'occupe de notre site, Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a mis une photo du même genre dans la newsletter. Au Moyen-Âge et encore longtemps après, ces sculptures de taille humaine étaient, comme celles dont j'ai mis les photos, montées sur roulettes. Et il en reste encore beaucoup. Pourquoi ? Pour pouvoir être promenées en procession, pendant que le peuple des croyants marchait derrière, rejouait la scène et chantait la citation du psaume 118, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, on a beaucoup réfléchi sur le psaume 118 et on a vu que c'était un psaume liturgique. Donc, c'est une sorte de réappropriation de ce psaume pour faire de l'entrée de Jésus à Jérusalem une liturgie, mais peut-être aussi une parodie de liturgie. Et justement, sur son âne à roulette, eh bien, Jésus nous met un peu mal à l'aise. Non seulement il est déguisé en roi, mais il est totalement passif. Un peu comme si, après avoir longuement préparé cette entrée, on l'a entendu, il se laissait traîner. Un peu comme s'il laissait se dérouler une sorte de mise en scène. Luc nous dit que les gens étendent leurs vêtements sous les pattes de l'âne pour lui faire un tapis royal. Mais n'oublions pas que toute la scène est déjà une annonce de la passion. Dans quelques jours, Jésus, arrêté et condamné, sera de nouveau déguisé en roi, avec un tapis rouge en guise de manteau et une couronne qui lui transpercera la peau du crâne. Le Seigneur en a besoin. Oui, et nous aussi, nous avons pourtant besoin de cet anon. Parce que je crois que grâce à cet anon, en partie, il y a malgré tout de la joie dans ce texte. Pas forcément la joie bruyante des disciples qui s'agitent en traînant leur âne à roulette. La joie vient de la grâce qui émane de Jésus lui-même. Cette grâce qu'il va vivre dans la pauvreté et l'humilité avant de la vivre dans la souffrance et sur la croix. Car celui qui est déguisé en roi est vraiment roi. Il n'est pas roi simplement à la manière des humains. Il va le dire d'ailleurs très prochainement à Pilate. Son royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur a besoin de l'anon faible et innocent pour manifester la fragilité et le dépouillement de son ministère. C'est ça la royauté de Jésus. C'est ainsi qu'il est roi. C'est ainsi qu'il devient Christ. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous parler de ces vieilles sculptures à roulettes. Elles n'ont l'air de rien, elles étaient peintes, mais bien sûr aujourd'hui, elles ont perdu leur couleur. Et pourtant, dans chacune d'elles, si on regarde le visage austère de Jésus, on peut retrouver la vraie joie de cette entrée à Jérusalem, parce qu'on sent que celui qui les a sculptés, ceux qui les ont sculptés, ont voulu nous communiquer le sentiment d'une véritable royauté, une royauté authentique, une royauté qui accepte la faiblesse et le ridicule. La royauté de Dieu vécue à travers notre condition humaine. Et les rares fois où nous rencontrons ce visage, nous pouvons essayer de le reconnaître. Nous pouvons essayer de nous mettre à son service et en redisant, comme nous le pouvons, les mots du psaume « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen.